Chez votre matériel ?
Oui.
Okay.
Pas grave, pas de tête.
Bon, vous avez tous remarqué l'ordre du jour, il n'y en a que pour Pascal Lejean. Donc ce que je vous propose, c'est que on le laisse ici tout seul, on aille boire un coup quelque part dans un établissement de boissons et qu'on revienne dans trois quarts d'heure quand il aura fini, si ça ne vous dérange pas. Hein ? Voilà. Non mais lui, il n'aura pas fini en trois quarts d'heure, mais nous non plus dans des bars. Donc, hein. Je le laisse chercher sa clé USB.
Vous êtes de mauvaise foi.
Quelqu'un t'a piqué ta clé USB ?
Ouais.
Alors, je commence par l'appel. Monsieur Tom Laborde. Bonjour. Je vois qu'il y a des... C'est pour un rôle, Pierre Léon, les cheveux courts ? D'accord, ok. D'accord. Et à mon avis, Tom est figurant dans Viking, je pense, lui. oui, Tom Laborde, présent. Monsieur Yann Guimard est absent. Est-ce qu'il y a un pouvoir D'accord, ok. Je n'ai pas noté. Parfait. Monsieur Pierre-Léon Luneau, donc présent. Madame Janine Le Golvan, présente. Madame Justine Vienne, absente pour l'instant. Monsieur Charles Bietri a donné un pouvoir à Olivier Lepic. Madame Juliette Cordès, qui est souffrante, a donné un pouvoir à Marie-Pierre Gasser. Monsieur Philippe Le Guénec, et oui, je ne l'avais pas vu. Bonjour Philippe. Madame Françoise Le Pennec est présente. Monsieur Christophe Richard, je l'ai vu. Il est présent. Monsieur Jean-Paul Kergosien, il est présent. Madame Christine Desjardins,
présent.
Tout à fait. Monsieur Buquin a donné son pouvoir à monsieur Pascal Lejean. Madame Marie-Pierre Gasser, monsieur Jean-Luc Servet a donné son pouvoir à monsieur Loïc Coudois. Madame Christine Lamandé,
présent.
Est présente. Monsieur Michel Durand,
présent.
Madame Catherine Isoard,
présent.
Monsieur Loïc Coudois,
présent.
Madame Catherine Alain. Je l'ai salué tout à l'heure.
Monsieur
Gérard Marcalvert a donné un pouvoir à monsieur Michel Durand, madame Sylvie Robineau,
absent.
Monsieur Pascal Lejean.
Absent.
Ah non, nous fait pas des fausses surprises. Il est malheureusement présent. Eva risque de parler très longtemps. Madame Nadine Rouet. Je compte sur vous pour gérer un peu monsieur Lejean s'il est trop long. Madame Katia Sculo est présente et Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum et nous pouvons délibérer. Je propose à Madame Le Pennec d'être secrétaire de séance si elle l'accepte.
Oui.
Merci Madame Le Pennec. Je passe immédiatement à l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce non, pas de remarques. Il est donc approuvé. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire 2022-34 jusqu'à 2022-54. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Monsieur Laborde ?
Sur la 2022-37, les adhésions des associations, on a Paysage de Mégalith pour 20 000 euros.
Oui.
C'est le tarif d'adhésion pour une commune ? Un tarif spécifique ?
Ah non, ça c'est le tarif qu'a accepté de payer Carnac pour aider l'association. C'est pas le tarif communal normal.
Parce que les autres communes peuvent être adhérentes aussi
oui, tout à fait.
Un tarif inférieur, donc.
Tout à fait.
Mais en fait, c'est la commune qui choisit son adhésion, enfin le montant de son adhésion ça,
bah,
ça,
oui, tout plutôt... à fait. Enfin, je veux dire, c'est la commune a choisi, compte tenu de l'ampleur et du nombre de monuments classés sur son territoire par rapport aux autres, de prendre une charge supplémentaire par rapport à ce tarif d'inscription.
D'accord. Et... Le fait de passer cette somme en subvention, non, c'était pas plus logique.
C'est une adhésion. Enfin, c'est comme ça que le règlement le stipule.
Et à part notre commune, qui est-ce qui verse des montants super?
Il y a Luc Maria Kerr qui a aussi beaucoup de monuments et qui verse une somme un peu supplémentaire. Et puis, de mémoire, peut-être Erdeven un petit peu plus. Il y a des communes, en fait, il y a des communes qui ont négocié des tarifs à la hausse, à la baisse, en fonction des...
D'accord. Et vous nous ferez une présentation, en fait, pour le budget de l'association Paysages et Mégalithes comme...
Si vous voulez, oui, pas en conseil municipal, mais si ça vous intéresse, on peut organiser une réunion, pas seulement du budget, d'ailleurs, de l'état des lieux du dossier, si ça vous intéresse, puisqu'on avance assez vite en ce moment, puisqu'on est passé au plan de gestion. On a eu un comité de pilotage dans cette même salle ce matin à 10h avec le sous-préfet, donc avec plaisir.
D'accord. Et au niveau de pouvoir adhérer, donc maintenant, n'importe quel particulier peut adhérer à l'association ?
Non, ah non, non. Il faut être une association qui a un intérêt au classement. Et donc, comme ce sont des adhésions qui sont décidées par le bureau, il faut qu'il y ait quand même un lien avec le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO ou avec la gestion du territoire ou avec le patrimoine.
D'accord. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions du maire, Monsieur Laborde ?
On voit donc la 2022-42 et 2022-43, on a le Tuk-Tuk et Brest Visiotourisme. On ne voit pas le petit train touristique cette année. Est-ce que c'est
normal ? Vous savez, il a eu une autorisation pour 2 ans.
D'accord.
D'autres questions ? On passe au festival, Monsieur Lejean, avec le budget principal et le budget annexe du musée, l'affectation de résultats 2021.
Tout à fait. Donc, je vous avais présenté, il y a maintenant 3 semaines, le compte de gestion, le compte administratif de la commune et du musée. Donc, aujourd'hui, vous avez l'affectation du résultat. On reste sur le... On passe sur le PowerPoint ou on reste là-dessus, Philippe ? Comme tu veux. Bon, après, j'étais sur le PowerPoint. L'office de tourisme, on va attendre un peu. Donc, je vous rappelle juste le résultat de la commune. Tiens, j'avais pas la voir. Donc, de 4 662 000. Donc, l'affectation, il vous a proposé que l'affectation du résultat 2021. 2,3 millions de la part de l'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement 2022 et 2,362 millions de part de l'excédent reporté à la section de fonctionnement pour 2022, sur les 4,662 millions. Il faut qu'on vote sur l'affectation. Avez-vous des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe donc...
L'affectation du résultat du musée, budget annexe du musée, donc résultat de fonctionnement 2021, 0, résultat de fonctionnement antérieur, 0, résultat de fonctionnement de la clôture à 2021, 0, l'affectation du résultat, pas d'excédent à affecter. Budget, je vote sur l'affectation du résultat du budget annexe du musée.
Pas de vote contre, pas d'abstention.
Merci.
Au rapport suivant, Monsieur Lejean,
les taux d'imposition communaux, je vous avais expliqué qu'ils sont inchangés, mais je vous avais juste expliqué la petite variation qu'il y a suite à la récupération du taux départemental sur le foncier bâti, puisque la taxe d'habitation pour les résidences principales va être supprimée d'ici 2023. Donc aujourd'hui, on a un taux à 30,15 qui reprend le taux de la commune de 14,89 plus la quote-part du département à 15,26 pour arriver à 30,15. Et on a un coefficient correcteur, je vous rappelle, qui est de 0,65-24-55, 6 chiffres après la virgule, c'est pas facile, ils en avaient 8, voilà, qui correspond à peu près pour 2021, où on a redonné 1 883 000 euros, et pour 2022, sur un prévisionnel d'1 950 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces taux d'imposition 2022 inchangés ? Je propose donc de passer au vote, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions, unanimité, je vous remercie. Le budget principal maintenant.
Le budget primitif de la commune de Carninck pour 2022. Donc vous avez essentiellement les 6 points, les 6 fondamentaux de la commune. Je vous rappelle juste l'excédent global de fonctionnement et d'investissement. En bleu, le fonctionnement qu'on a voté la répartition tout à l'heure, et en vert, l'investissement sur un excédent global de 7 729 000 euros pour 2021. Ce qui nous amène à un budget global pour l'année 2022 en budget primitif à 24 544 000 euros, dont à peu près 15 247 000 euros en fonctionnement et 9 297 000 euros en budget d'investissement. Dans Dans les dépenses de fonctionnement, donc ce qu'on a déjà vu un petit peu dans le DOB, donc vous avez des charges à caractère général pour 2 878 000. Donc je vous rappelle, on compare sur le BP par rapport à 2021, un BP et pas le réalisé. Sur les charges de personnel, 4 499 contre 4 421. Sur les activations de produits, 2 518 000 contre 2 438 000. Les dépenses imprévues, 483. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a zéro en 2022. Sur les autres charges et gestion courante, 1 674 contre 2 204 000 euros, excusez-moi. Et dedans, là, vous avez les dépenses imprévues. C'est la modification de la M57 par rapport à M14. Charges financières, 133 000 contre 150 000 euros. Les charges spécifiques, 10 000 contre 55 000. Les dotations en dépression et aux prévisions, 5 000 euros. Les opérations d'ordre entre sections, amortissement, 1 million 2 contre 910 000 euros. En 2021, virement de la section d'investissement, 1 million prévisionnel de 2022, qui est toujours en général le même montant, 1 million 8. Ce qui nous fait un total de 15 247 000 euros, le budget en progression de 3,45%. Sur les recettes, les atténuations de charges, 50 000 euros contre 10 000, les produits des services du domaine vente, 634 000 contre 469 000. Impôts et taxes, 10 695 000 contre 10 247 000. Dotation, participation, 1 400 000 contre 1 200 000. Autres produits, gestion courante, les loyers, 266 000 euros contre 193 000 euros. Produits financiers, 44 000 contre 6 000 euros. Et les produits exceptionnels, 10 contre 930. Alors, les produits financiers, 44 000, on les a vus en commission finance, et qu'on a eu une demande, rappelez-vous, il y a quelques années, nous avons renégocié un emprunt dit structuré à taux fixe, et derrière, nous avions eu une aide de l'État, suite à la problématique des emprunts toxiques, hein, même si on n'en avait pas. Et la proposition aujourd'hui de la Banque Dexia, c'est fin de la SFIL, c'est de... qui finançait chaque année à la hauteur de 6 000 euros, le surplus qu'on avait eu, c'est de solder le dossier, puisque l'emprunt va jusqu'à fin 2025, et de le solder en une seule fois. Voilà pourquoi on a plusieurs années d'un seul coup, et comme on a 44 000. Sur les produits exceptionnels, la dernière est la cession du terrain des Guémont, qui fait la différence. Les opérations d'ordre entre sections 177-182, c'est à peu près équivalent. L'excédent de fonctionnement reporté, vous l'avez vu, 1 704 en 2021, 2 362 en 2022, ce qui nous amène à 15 247 000 euros. Avez-vous des questions ?
Toujours la même remarque, comme tous les ans, c'est vrai que c'est BP à BP,
ouais.
Mais... on voit, par exemple, pour tout ce qui est dépenses de fonctionnement, en tout cas les charges du personnel, vous avez continué de budgéter.
Alors,
beaucoup
on
plus.
Est, on, oui, le but, c'est toujours de se donner, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est se donner les moyens pour éviter de revenir à un moment en décision modificative si on a besoin, d'avoir déjà les moyens de pouvoir répondre si, effectivement, quelque chose se présente devant nous et qu'on a besoin de répondre. Je vous rappelle que si aujourd'hui on occupait tous les postes qui sont ouverts au niveau de la commune, si on remplaçait tous les maladies ou tous les congés maternité, derrière on arriverait à ce montant-là. Alors effectivement, comme tous les ans, on a le même discours, hein, et le delta est relativement important entre le prévisionnel et le réalisé. L'objectif du prévisionnel, c'est de se donner les moyens. Et pas non plus, si vous voulez, d'être obligé d'en provoquer un conseil municipal pour pouvoir faire une modification si quelque chose se présente. Aujourd'hui, on sait qu'on va rentrer dans une période qui est relativement difficile en termes de recrutement, entre autres dans les services techniques, pour suivre les travaux. Il y a une compétition, déjà dans le privé, il y a une forte compétition, une forte surenchère. Donc c'est aussi d'avoir les moyens pour pouvoir répondre si on a une opportunité. La dotation globale de fonctionnement dite DGF, hein, juste un petit rappel, un point de référence en 2010 où la commune de Carnac avait 1 976 000 euros, 2022 750 000 euros. C'est vrai que de 2010 à 2022, ça fait à peu près une perte de 9 millions d'euros. viens toujours à...
Le président Macron a annoncé 15 milliards d'euros d'économies sur les collectivités territoriales. Monsieur Lejon, vous allez vous serrer la ceinture.
Ah ben, bah, moi je vais... Oui, enfin moi, c'est, si on revient sur ce qu'on avait, enfin on peut rester sur ce graphe-là, hein, ce qui serait beaucoup plus simple, hein, c'est que vous avez quand même un budget de 15 millions, on a dans le budget primitif, on a 4,5 millions de masse salariale, derrière vous enlevez l'excédent, la masse salariale, c'est grosso modo à peu près 7 millions, sur 7 millions on paye de la TVA à 20%. On récupérait la TVA, j'aurais plus besoin de dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire que les collectivités locales redonnent plus d'argent à l'État que l'État donne. Oui, enfin, voilà. Donc le petit graphe hein, où je vous avais remis les années 2015, 2016, 2017, hein, je vous rappelle, contribution au désendettement de l'État. Bon, voilà, sans commentaire. Hein. La section investissement, donc solde d'exécution de la section d'investissement reporté zéro, dotation fonds divers de réserve zéro, remboursement du capital des emprunts 772 000 euros pour 2022 contre 746 000 euros pour 2021. Subvention d'équipement versée 671 000 contre 686. Immobilisation incorporelle 490 000 euros contre 305. Immobilisation corporelle 4 806 000 euros contre 3 209 000 euros. Immobilisation en cours 2 376 000 contre 1 928. Dépenses imprévues. Pareil, hein, elles ont été remontées dans le chapitre 23. C'est pour ça qu'elles sont à zéro. Opération d'ordre entre sections, 182 000 euros. Opération d'ordre patrimonial, il n'y a rien de prévu, zéro. Les opérations d'ordre entre sections, je vous rappelle, ce sont souvent les travaux en régie, entre autres. Sur le montant des 4 806 000, vous avez une opération qui est entre autres la réserve foncière pour les logements des saisonniers, dit Camping des Pins, qui est intégrée dedans. Entre autres. Y a-t-il des questions ?
Opération patrimoniale, si on avait dû mettre un chiffre,
1,7 million. Sur les 4,8 millions. C'est ça que vous voulez savoir, Mme Golvan ? Non, pardon. Ah, c'est les cessions. Sur les dépenses d'investissement, vous les avez sur un petit camembert qui vous redonne un petit peu ce qui est en voirie, réseau pluvial. Alors, j'avoue que ce camembert, il n'est pas très, très explicite. On va essayer encore de l'améliorer pour les prochaines années. Le problème, c'est que le camembert, il ne correspond pas vraiment au chapitre du plan comptable. Et le chapitre du plan comptable, il est un peu imbuvable. Alors, si on le remet en chapitre du plan comptable, c'est encore moins bien. Donc, on essaye un petit peu de lui faire dire quelque chose en... Ce qui est voirie, réseau pluvial, mobilier matériel, bâtiment, infrastructure, terrain, jardin, cimetière, opérations financières, études, réserves foncières, aménagements saisonniers, les APCP et les divers. Les APCP, on va les découvrir un petit peu tout à l'heure, un peu plus en détail, donc on aura le temps de revenir dessus. Sur les recettes, vous avez un solde d'investissement reporté des 3 067 000 euros, dotation fonds divers de réserve 550 000, affectation excédent de fonctionnement N-1 de 1,3 million qu'on a voté tout à l'heure, subvention d'investissement reçue, on prévoit 380 000 euros, emprunt, dette, il n'y en a pas de prévu, immobilisation en cours, il n'y en a pas, virement prévisionnel, la section de fonctionnement, c'est un virement prévisionnel, hein, c'est pour équilibrer le compte du budget d'investissement que vous avez, donc il est que prévisionnel, hein, parce que c'est ce qu'on revote en général dans le solde, les affectations de l'excédent de fonctionnement en général tous les ans. Produit de cession d'immobilisation, rien du tout. Opération d'ordre entre sections 1,2 million qui correspond aux amortissements. Et opération patrimoniale, zéro. La dette pour 2022, donc on avait vu dans le DUB, hein, donc la dette en cours en 2022 pour à la hauteur de 3 809 000 euros. Vote du budget, monsieur le maire.
Il y a des questions. Il a été synthétique, je trouve, cette fois-ci. Franchement, monsieur Lejean, félicitations.
Ouais.
Madame Le Golban.
Alors, nous, on va voter le budget primitif parce qu'il y a des choses, évidemment, qui nous tiennent à cœur et elles sont prévues, en effet, dans les APCP qu'on va voir tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, avec ce budget, vous prévoyez de racheter le foncier, en tout cas d'investir dans le camping pour faire des logements saisonniers. Vous prévoyez aussi de créer le skatepark, en tout cas c'est noté, des pistes cyclables à hauteur de 150 000 euros, le dossier de Kerloquet où vous avez mis aussi une somme de 96 000 euros, l'église de 100 000 euros. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous n'avez en tout cas pas budgété la vente du terrain, enfin du terrain des sports. Donc pour toutes ces bonnes raisons, donc on va voter le budget primitif en vous donnant toutes les clés justement pour mener à bien tous ces projets.
Merci. Le seul dossier sur lequel je ne peux pas m'engager, c'est Kerloquet, parce que malheureusement, on n'est pas seul décisionnaire, mais on va effectivement tenter de le remettre au moins partiellement en eau. Il y a les études de faune qui vont s'achever au printemps, parce qu'on avait besoin des quatre saisons. Et donc, je pense qu'on fera une réunion publique avec le collectif qui voulait la faire là dans quelques semaines, mais je pense qu'il vaut mieux attendre la fin de l'étude. On fera une réunion publique, je pense, peut-être avant l'été, pour expliquer un peu le dossier et de voir si la DDTM nous laisse avancer dans cette remise en eau partielle. Pour le reste, on réalisera. Le Kerloquet, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on est prêt à continuer à dépenser de l'argent en études, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Carnacois auxquels ça tient à cœur.
Juste, quand vous dites on réalisera, donc ça veut dire que comme vous n'avez pas prévu le budget à l'opération patrimoniale, ça veut dire que vous ne réaliserez pas la vente du terrain des sports en 2023.
Ah non, ça, je n'ai pas dit ça.
Donc, quelque part, le chiffre aurait pu être...
De toute façon, quand il aurait pu... Non, pour l'instant, rien n'est fait, donc on ne l'inscrit pas au budget. Le jour où ça se fera, ça passera de toute façon au conseil municipal. Donc, si ça se fait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut passer au vote, donc. J'imagine qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lejean, continuez.
Tout à fait. Sur le budget annexe du musée. Donc, pardon ?
C'était juste de prendre acte. D'abord, je crois qu'il y a le rapport d'activité du musée, mais c'est Catherine.
Ah, pardon.
Voilà, c'est juste. Ben oui, je sais pas ce que je viens faire au milieu, mais enfin bon. Donc en fait, c'est juste. Donc vous avez tous eu le bilan d'activité 2021, donc c'est juste prendre acte de la communication du rapport. Voilà, pour l'année 2021. Ils ont souffert aussi, mais ils sont toujours plein d'enthousiasme. Donc ils repartent pour 2022. Voilà.
Excuse-moi, Catherine. Donc, en section de fonctionnement du budget annexe du musée, donc en charge à caractère général, 137 000 euros contre 140, charge personnelle, 460 000 contre 460 000, on est toujours effectivement en budget primitif, autre charge de gestion courante, 3 000 euros. Charges exceptionnelles, il n'y en a pas. Opération d'ordre entre section, 43 000 euros. Et virement à la section d'investissement, 61 000 euros, ce qui fait un budget à 704 000 euros en dépenses de fonctionnement. En recettes de fonctionnement, atténuation de charges zéro, produit des services du domaine vente, 210 000 euros, dotation de participation zéro. Autre produit de gestion courante, 480 000 euros. Opération d'ordre entre sections, 14 000 euros. Avez-vous des questions ? Puis relativement classique d'une année sur l'autre, le musée, du moins dans le BP, avec effectivement des années un peu compliquées, les deux dernières, surtout celle de l'année dernière. Celle d'avant était un peu...
Comment une petite question, c'était par rapport au rapport d'activité, mais tout ça c'est lié. On a vu que justement les travaux étaient commencés pour les gradines au niveau du MENEC, et on a eu les réponses à nos questions, savoir s'il fallait un permis. Mais en effet, je crois que c'est le CMN qui a demandé directement à la préfecture, c'est ça, pour obtenir le.
Alors, le Olivier Goguet était le pilote direct qui a été délégué par le département pour piloter ça. Donc voilà, il avait toute capacité à le faire.
Voilà, et ce qu'on nous a dit aussi, c'est que les travaux pouvaient être faits parce qu'en fait, là où c'est fait, il n'y avait pas de fouille à faire dans la mesure où c'était...
Un ancien parking.
Un ancien parking, d'accord. Les riverains m'ont interpellé aussi, à savoir que le sens de circulation, enfin bref, apparemment, il y a des échos qui disent que pour cet été, il y aura un sens de circulation en sens unique dans cette rue. Est-ce que c'est vrai, faux, enfin un tox ?
Alors oui, effectivement, on envisage de faire un test d'abord. Alors je ne sais pas si c'est toujours dans les vacances de Pâques, mais on envisage de faire un test pendant une première partie des vacances au printemps pour faire un sens unique à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup trop de circulation, c'est beaucoup trop dangereux, il y a un accident dramatique, même s'il n'était pas lié à la circulation l'année dernière avec cette jeune fille qui a perdu la vie. Et donc on voudrait faire un test, mais dans un premier temps, je pense qu'on fera éventuellement une réunion publique, on va recommencer les réunions publiques et on en parlera. Mais oui, on aimerait faire un test de je ne peux pas vous dire encore dans quel sens sera le sens unique, mais on aimerait faire un test parce que c'est un endroit beaucoup trop dangereux l'été. Il y a à la fois des places de parking et on voudrait dédier la voie qui est au sud des alignements aux circulations douces, aux vélos et aux piétons et laisser les voitures simplement sur l'autre voie. On va faire un test. Si c'est concluant, on envisagera pourquoi pas de pérenniser. Si ça ne l'est pas, on reviendra à la situation ante. Mais de toute façon, il faut trouver un aménagement satisfaisant à cet endroit parce qu'aujourd'hui, que ce soit les voitures qui stationnent ou les personnes qui marchent dans la poussière le long des grillages, c'est pas du tout satisfaisant. Et à cet endroit-là, il ne serait pas complètement surprenant que voilà, cette voie sud soit réservée aux circulations douces, vélos ou piétons et plus aux voitures.
Donc, on peut penser qu'au niveau du giratoire, dans ces cas-là, le rond-point qui a été fait un peu plus en amont vers le Nignol, on pourrait, parce qu'il va falloir désengorger l'été, si on fait une voie à sens unique, que ce soit dans un sens ou dans un autre.
Il y aura des conséquences. C'est pour ça qu'on veut tester.
Donc ce rond-point servira peut-être à délester et passer par Kerlan
Alors, dans l'étude de redynamisation du bourg, il y a une éventualité, mais ça c'est à plus long terme, ce serait de doubler la voie légèrement plus au sud, à mi-chemin à peu près entre la Maison Bleue et l'entrée du collège. Il y a un endroit où on pourrait éventuellement retracer une route qui partirait de cet endroit-là et qui arriverait jusqu'au terrain il est là d'ailleurs, mais juste au sud de ce terrain qui appartient, qui est le terrain du cirque, de manière à complètement laisser cette voie piétonne. Mais là, c'est un projet à beaucoup plus long terme. Et pour l'instant, c'est un doux rêve que la municipalité pourrait caresser, mais ça pourrait être une façon de détourner la circulation sans reporter une circulation supplémentaire rue de Bellevue, parce que c'est probablement une des rues qui se trouverait évidemment beaucoup plus fréquentée si d'aventure on n'avait pas ce rattrapage.
Et la déviation vers Kerlan, alors, du coup ?
Et la déviation vers Kerlan, pour l'instant, il n'est pas question d'y toucher.
D'accord.
Non, je pense que ça... Vraiment, pour en discuter assez souvent avec les habitants de Kerlan, ils y tiennent, et même si ça nécessiterait un petit détour, c'est pas à l'ordre du jour. Oui, on s'est éloigné du sujet.
Non, oui, là, on a un peu perdu le PowerPoint aussi. Voilà, donc... Sur l'affectation du résultat de la commune, on va peut-être redescendre au musée. Impeccable. Avez-vous des questions sur le budget de fonctionnement du musée ?
Non.
On va passer au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ?
Ah pardon, on fait d'abord l'investissement. Oui, je suis allé trop vite. C'est moi qui suis allé trop vite ce coup-ci. Je veux vraiment aller... Les dépenses... Pardon, excusez-moi. Non, je voulais voter les deux, mais bon. Dépenses d'investissement sur le musée, donc en budget annexe. Immobilisation incorporelle, 103 000 contre 35. Je vous rappelle, les 103 000 de l'année dernière, c'était surtout l'étude qui a eu lieu sur le musée, même si dans les 35 000 de cette année, il en reste un reliquat. Immobilisation corporelle, 51 pour 44 000. Immobilisation en cours, 6 000 euros. Opération d'ordre entre sections, 14 000 euros. Déficit d'investissement reporté, 63 000 euros. Ce qui nous fait un budget de 162 000 pour 2022 contre 203 000 en 2021. Mais en 2021, il y avait l'étude sur la faisabilité du futur musée. Les recettes d'investissement, dotation, fonds divers de réserve, 4 000 euros. Affectation de l'excédent de fonctionnement, il n'y en a pas. Subvention d'investissement reçue, 54 000 euros. Emprunt de dette assimilée, il n'y en a pas. Virement à la section de fonctionnement, 61 000 euros. Opération d'ordre entre sections, 43 000 euros, donc 162 000 euros de recettes d'investissement. Voilà.
Alors justement, par rapport aux dépenses d'investissement et recettes d'investissement, mais surtout aux dépenses d'investissement, on voit qu'apparaît l'étude, donc les 35 000 euros, pour 2022, quid, comment ça va avancer ce dossier, puisqu'on l'a voté en conseil municipal pour la création du futur musée. Ça, ça avait quoi, les étapes maintenant, c'est quoi?
Alors, on a voté le principe de l'implantation du nouveau musée. Les prochaines étapes, c'est nous sommes en discussion avec le conseil départemental, la région, l'intercommunalité, pour parce que ça va être un projet évidemment multifinancé, hein, la commune ne sera pas le financeur principal, mais également avec CMN et le ministère de la Culture et la région, pour déterminer quelle est la structure de portage la plus adaptée, puisque soit c'est la commune qui gère totalement le projet et qui reçoit les subventions, soit dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, on crée une structure qui porterait à la fois l'inscription dans les années futures et également qui pourrait loger le musée. Donc d'ici quelques dizaines de jours, je pense qu'on aura une vision un petit peu plus claire sur la nature de la structure juridique qui portera le projet. Ça peut être purement communal, comme ça peut être un espèce de GIP dans lequel il y aura la région, le ministère de la Culture et le département. Et une fois qu'on aura déterminé cette structure, on avancera sur le projet.
Monsieur le président, vous avez terminé sur le
budget ? On vote alors. Bon. Est-ce qu'il y a des votes contre sur ce budget primitif 2022 du musée ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Monsieur Lejean, on continue. Autorisation de programme ?
Alors, c'est sur les APCP. Ce sont les anciennes APCP. Vous avez le détail, effectivement, derrière. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le bilan des APCP en cours et de prendre acte des crédits de paiement subventionnés. D'autoriser le maire à procéder à liquidation et au mandat des dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2022 susindiqués. Avez-vous des questions ? Oui.
Au boulevard de la plage, les 202 000 euros, là, ça correspond à quoi il y a...
Alors, c'est juste des reliquats qui a entôt été sur une problématique platelage de mémoire avec quelques petites modifications, puisqu'il y avait eu du retard, si je ne dis pas bêtise, dans l'élaboration de l'aménagement autour des toilettes publiques à la pointe Churchill.
D'accord.
Puisqu'il n'avait pas tous les matériaux nécessaires et que ça avait pris un peu de retard.
Concernant le fait d'arborer en fait ce boulevard, parce que c'est quand même pas mal réclamé, je dois avouer qu'avec une journée comme aujourd'hui, la réverbération, c'est pas très agréable. Est-ce que c'est prévu justement dans le futur d'aménager le boulevard, de reverdir un petit peu ce boulevard ?
Pas spécialement. En fait, ce qui est prévu, c'est de laisser les pins. Vous avez vu que depuis qu'on a mieux protégé la dune, il y a une résurgence du nombre de pins qui poussent à cet endroit-là. Donc on va en laisser une partie repoussée, et donc ça servira essentiellement à arborer le boulevard de la plage. À quel endroit vous vouliez arborer, Madame Le Golvan ?
C'est-à-dire que quand on voit la largeur du boulevard de la plage, là, c'est vrai que quand on va dans d'autres villes, ne serait-ce que la Vannes, par exemple, qui est en train d'aménager tout le long du canal et de voir comment ils ont arboré, c'est vrai que... C'est dommage qu'ils le fassent après nous, mais on aurait pu en prendre.
Alors, à
Vannes,
on est dans un port. Là, on est sur une plage, d'une part. Et en fait, je pense que tout le parti pris aussi de l'aménagement et de cet espace très, très large. Et vous l'aurez constaté, la fréquentation du boulevard de la plage a décuplé, et particulièrement dans sa partie est, où avant, les gens n'allaient pas. Quand on va le dimanche, maintenant, on constate qu'il y a non seulement un espace qui est partagé, il y a beaucoup plus de vélos, il y a beaucoup plus de piétons. Et en plus, on a l'avantage, juste au sud, d'avoir cette dune qui est en train de se revégétaliser, parce qu'elle est mieux protégée avec les ganivelles. comme on a limité les accès perpendiculaires à la plage, et donc je pense qu'on va laisser la nature reprendre ses droits sur la dune, et c'est un peu l'objectif. Mais par ailleurs, je ne vois pas très bien comment on pourrait revégétaliser aujourd'hui cet espace qui... j'entends pas beaucoup de gens me demander ça. J'entends surtout des gens dire que c'est très agréable. Et quand je vois la fréquentation le dimanche, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très agréable. Après, les pins vont repousser. Il faudra gérer, évidemment, parce qu'on ne va pas laisser tous les pins repousser. C'est aussi une question. Il y a un débat, d'ailleurs. J'ai découvert qu'il y avait un débat à la DDTM sur oui ou non les pins sur les dunes. Parce que certains... Voilà, justement, moi, je pensais que c'était non. Et finalement, c'est pas aussi simple que ça. On était parti pour en enlever une grande partie. Eh bien non, la doctrine évolue et on en laisse, à ma grande surprise. Mais simplement, il faut quand même gérer parce que ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Vous savez tous que les aiguilles de pin sont très acides et que à certains endroits, ça peut abîmer la dune, pas à d'autres. Mais en tout cas, la doctrine évolue. Moi, j'étais resté il y a quelques années à pas de pin sur la dune, et maintenant, la DDTM a une approche un petit peu plus ouverte sur le sujet.
Concernant, donc, dans les APCP, on voit aussi qu'il y a un budget de mis pour le Yacht Club, une étude, en fait, c'est ça, 35 000 euros, je crois. Oui, on voit ça après. Concernant, justement, de la continuité du boulevard de la plage, est-ce que c'est prévu dans vos projets futurs de continuer? Parce qu'il n'y a pas que le boulevard à cet endroit-là, la plage, c'est quand même aussi toutes les autres plages. Vous le dites, d'ailleurs, dans tous ces cinq plages à Carnac.
Alors... On aimerait bien le faire. Après, ce sont des projets extrêmement coûteux. Si vous me posez la question, je dirais oui, moi, j'aimerais bien le faire. Est-ce que ce sera ce mandat ou un autre, s'il y en a un autre? Mais en tout cas, oui, c'est, je pense que, compte tenu de ce qu'on a fait sur le boulevard de la plage, il va falloir, parce que Saint-Colomban, le front de mer à Saint-Colomban a aussi bien vieilli, hein, il est très daté en termes d'aménagement et d'infrastructure. Donc oui, l'objectif, ce serait d'avoir au moins, je dirais, une homogénéité du front de mer à Carnac, de Saint-Colomban jusqu'à Beaumaire. Ceci dit, pour l'instant, et sauf à ce que M. Lejean... fasse gagner la commune à l'euro million, on va le faire progressivement et je pense pas que ce sera achevé à la fin de ce mandat.
Après, il y a un autre souci, c'est avec tout ce qui est la problématique de l'API, la montée des eaux, sur la problématique de l'Echenez, Tibillon et Saint-Colomban, c'est pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui sur la Grande Plage. Donc sur la Grande Plage, on avait effectivement une brèche où on a pris une décision de la renforcer et de sécuriser à ce niveau-là. Sur le reste de la dune, on est assez... sécurisé. Par contre, sur la problématique au niveau de l'Echenez, Tibillon et Saint-Colomban, effectivement, il peut y avoir des évolutions. Donc, on attend un petit peu les évolutions de ce que va nous sortir la loi à ce niveau-là sur la loi climat et résilience, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on pourra faire et qu'est-ce qu'on pourra pas faire. Par contre, sur le fait de refaire la base nautique, le Yacht Club, la base ouest et la base est, ça sera aussi l'idée de poursuivre au moins la partie du boulevard de la plage, cette partie-là, de la continuer.
Alors, on peut passer au vote sur ces APCP. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Toujours une clôture de la CCP, mais cette-ci, c'est la PCP numéro 3, monsieur Lejean.
Tout à fait. C'est donc l'autorisation de clôturer la PCP numéro 3 qui correspond au rond-point du Nignol, qui a effectivement été soldé. Donc le montant de la PCP de départ était de 740 000 euros et le montant définitif est de 697 000 euros.
Sur ce bordereau, pareil, j'ai été sollicitée par un riverain, je ne peux pas dire plusieurs, mais un riverain qui, c'est vrai, bon, il y a eu le rond-point qui a été fait, le camping qui a été repris par de nouveaux propriétaires, et toutes ces poubelles, j'ai été voir, c'est, oui, vous voyez de qui je parle, mais en même temps, c'est... Non, mais moi,
monsieur et madame Lerouzic, vous voyez bien qu'on va en parler, puisque c'est ça que vous voulez évoquer. Le dossier, il est en mairie depuis plus d'un an. Que ce soit monsieur le maire ou moi-même, on a suivi ce dossier. Vous avez un groupe qui est en face, qui a repris le camping. Comme tous les groupes, ça fonctionne un petit peu différemment qu'un indépendant. Donc on est allé les voir, ils ont modifié. D'ailleurs, il suffit que vous allez voir, les poubelles n'existent plus. Effectivement, il y a eu une erreur. Ils ont un parking côté résidence et qu'ils ont voulu effectivement aménager derrière et qu'ils avaient la possibilité d'aménager pour pouvoir y mettre effectivement leurs poubelles. Maintenant, effectivement, ça mettait des nuisances pour les riverains. Donc on a demandé de faire la modification. Alors effectivement, une fois que la saison a été lancée, ça n'a pas pu être fait avant la saison, donc ça a mis un peu plus de temps. Après, dans des groupes, c'est comme dans une collectivité, il y a des votes de budget pour pouvoir faire les investissements. Donc voilà, mais c'est dans les tuyaux, et si vous êtes allé sur place, vous avez bien vu que ça a bougé.
Bah, moi, j'y suis allé il y a un mois et demi, et bah, ça avait l'air d'être toujours en place. Enfin,
Vous avez vu des poubelles ?
Bah, on est morte saison quand même.
Je répète ma question. Avez-vous vu des poubelles par rapport à ce qui était avant ?
Bah, moi, j'ai vu des containers, en tout cas.
Non, normalement, il n'y en a plus. Il reste les claustras, effectivement.
Donc, ça a été enlevé en tout temps.
Tout à fait. D'accord. Non, mais on suit le dossier. Alors, maintenant, on ne peut pas réagir à la minute, à l'instant T. Et légalement, ils pouvaient le faire, hein, puisque ça leur appartient. Voilà. Après, on est... Le camping, il est là. Entre-temps, il y a eu des résidences qui sont venues. Effectivement, il y a des nuisances, que ce soit celui-là ou que ce soit à d'autres endroits. Hein. À chaque fois qu'il y a un camping à Carnac, effectivement, on peut avoir des riverains qui sont pas contents des campings. Et puis, on est peut-être plus tolérant à 30 ans qu'on est à 70 ans.
Non, mais c'est bien. Si ça s'est réparé entre-temps, ouais, c'est parfait.
On a reçu M. Lerouzic, on a vraiment été sur la balle. Je peux vous dire que... Carole, Delphine, Pascal, on est tous intervenus. Il était très évidemment très très pressé de vouloir régler ce problème, mais voilà, on peut pas. C'est traité.
Il est en cours, le dossier est en cours pour être traité et être soldé.
Oui, mais vous me dites que toutes les poubelles sont enlevées.
Alors, ils ont enlevé les poubelles, il faut qu'ils enlèvent les claustras. Enfin, ils ont encore fait des aménagements.
Ah voilà. Oui, tout à fait.
Oui,
tout à fait. Ceci dit, on est. Enfin, le conseil municipal n'est pas le lieu pour régler des problèmes de particuliers. On s'en occupe. Les poubelles vont être enlevées, mais ça fait partie. Moi, le samedi matin, c'est le travail. Vous savez très bien, vous avez été élu. Hein, on fait ça tout le temps, régler des problèmes. Donc, si on commence à adresser les problèmes des particuliers à chaque conseil, parce que c'est des problèmes compliqués, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, ce problème est réglé. Mais M. Lerouzic, il sait qu'il est réglé. Mais ça l'empêche pas de venir d'ailleurs toutes les semaines en mairie, mais il est réglé le problème.
Il y aura un parking, c'est pas pour ça qu'il y aura zéro nuisance. Alors, il y a le problème des poubelles, il y a le problème du bruit, il y a le problème du monde, il y a le problème. Oui, bah alors après, il y a le problème de tout. Hein. Mais là, je n'ai pas la solution à tout.
Ok. Est-ce que il y a d'autres questions sur cette PCP ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Encore une APCP, des APCP.
Deux nouvelles APCP, la APCP numéro 8 et la APCP numéro 9. Donc le complexe sportif skatepark, on a parlé tout à l'heure, Madame Le Golvan. Donc le montant de la APCP total à 1 900 000 euros, et donc un crédit de paiement pour 2022 à la hauteur de 400 000 euros. Et la APCP du yacht club, ce que vous avez parlé tout à l'heure, 1 535 000, dont 35 000 pour une étude en CP 2022.
Alors, j'ai interprété, évidemment, mais 400 000 euros, ça sera dédié au skatepark ou au complexe ?
Alors, c'est une APCP, c'est un global. Les 400 000 euros du crédit de paiement, monsieur Christophe va se faire un plaisir de répondre.
Dans les 400 000, il y a deux parties. Il y a la partie de l'étude, de programmation pour le complexe sportif que vous voterez tout à l'heure. En tout cas, je l'espère. Et il y a le reste pour le skatepark. Voilà.
D'accord. Donc, on peut prévoir qu'en 2022, les travaux du skatepark...
vont commencer. D'accord. Je l'espère aussi.
Merci.
Vous n'êtes pas sur moi pour monter sur un skateboard le jour de l'inauguration ?
Non.
Ça ne va pas être possible. D'autres questions sur ces APCP ? Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. toujours M. Lejean sur la passionnante question du référentiel M57.
Oui, donc vous savez que nous avons été une des communes pilotes sur le Morbihan pour passer à la M57 sur le plan comptable de la collectivité par rapport à la M14. Donc voilà, donc on avait besoin, il est besoin de proposer au conseil municipal d'approuver le règlement budgétaire et financier, de préciser que ce règlement s'appliquera au budget principal de la commune et à son budget annexe, d'autoriser le maire et l'adjoint délégué à signer tous les documents s'y rapportant. C'est une formalité, mais c'est obligatoire.
J'imagine qu'il n'y a pas de questions, mais s'il y en a.
Non, ce n'est pas des questions, c'est des remarques.
Allez-y.
C'est vrai que j'ai mis en parallèle la M14 et la M57, donc j'ai feuilleté. Je n'ai pas trouvé, alors c'est vous qui allez me dire, je n'ai pas trouvé de grands changements. Ce qui m'a... Vous souriez, donc moi, je ne les ai pas vus.
Vous avez raison.
Je n'ai pas trouvé de grands changements. J'ai trouvé intéressant qu'il notait à chaque fois quand même la référence par rapport à l'année précédente. En tout cas, je trouvais que c'était assez appréciable. Et puis, c'était listé tout ce qui avait été fait dans la commune. Et au niveau aussi des chapitres, c'est vrai que par projet, en tout cas, c'était noté un peu différemment. C'est vrai qu'on n'avait plus le budget total.
La première des choses dans la M57, c'est que vous avez l'amortissement. Avant, il fallait attendre l'investissement de l'année pour pouvoir commencer à amortir en N+1. Là, vous le faites dès l'investissement, comme dans le privé. Il y a eu un inventaire qui est fait sur l'ensemble du patrimoine de la commune. Donc, ça a été répertorié. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait, effectivement, par les services. Je vous rappelle, on est au début de la mise en place de la M57. Elle va continuer à évoluer. Ils vont la faire passer sur l'ensemble des communes du territoire et continuer à la faire évoluer. Le but de la M57, c'est de la faire évoluer petit à petit, un peu plus près peut-être de la comptabilité privée, tout simplement, en termes d'amortissement, en termes effectivement de patrimoine derrière, et de simplifier différents paragraphes qui nous permettent de pouvoir jouer plus facilement à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Lejean. Rapidement, le rapport d'activité 2021 et le plan d'action 2022
de... Oui, donc l'Office du tourisme 2021, donc vous avez tous le rapport d'activité. Il a été vu effectivement en CODIR de l'Office du tourisme et il a été vu, débattu aussi en commission finance. Donc vous avez les principaux... données, total des nuitées, 1 418 000 nuitées marchandes. On est à plus 46% par rapport à 2020, mais on est quand même à moins 4,8% par rapport à 2019. Fréquentation des points d'information, donc 124 000 visiteurs, plus 21% par rapport à 2020. On est toujours en dessous par rapport à 2019. Donc, effectivement, la saison 2020, je vous rappelle les conséquences de la pandémie qui a fait le démarrage de notre saison, l'avant-saison, les ailes de saison sur le printemps n'étaient pas possibles, puisqu'il y a des activités qui ne pouvaient pas effectivement exploiter. Donc, ce qui fait essentiellement la baisse sur le reste de la saison, effectivement, c'est plutôt une bonne saison. On va continuer à aller un peu plus loin. Voilà, la communication du web, donc vous voyez les développements, le site internet qui est le premier outil de communication de l'OT avec une fréquentation en hausse, la mise en ligne d'un site internet de séjour qui met en avant les infos pratiques du territoire en temps réel, animation du jour, les restaurants ouverts ce midi ou ce soir, les activités pratiquées aujourd'hui suivant la météo, etc. Donc il y a eu aussi un gain intéressant. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Bon, voilà, Facebook, 83 000 fans, Instagram, 12 000 abonnés. Les communications, toujours un peu de papier. Le guide touristique édité à 15 000 exemplaires, le guide pratique édité à 25 000 exemplaires, puisqu'on a quand même, une fois que les gens sont arrivés sur place, tant qu'ils ont choisi leur destination de venir à Carnac et qu'ils vont effectivement aller sur Internet pour trouver leur destination, leur hôtel et ainsi de suite, une fois qu'ils sont sur place, ils aiment bien avoir effectivement le support papier pour savoir effectivement ce qui s'y passe. La communication, donc donner une visibilité à la destination, améliorer l'image de la station, station dynamique, station idéale pour des vacances en famille, développer la fréquentation de nos hébergements, développer la fréquentation du site internet. Les principales actions de campagne digitale Île-de-France, Hauts-de-France et Lyon à destination des familles et des jeunes actifs, une vague avant la saison, une vague en arrière-saison. En campagne cross-média en Allemagne, une campagne d'affichage en Belgique. Campagne publicité sur France 3 Bretagne, Pays de Loire, Normandie, parrainage météo en avril et juin. France TV en replay, donc 327 000 diffusions. YouTube devant 225 000 films vus complets. Objectif, générer de la visibilité et de l'audience. Je pense que vous avez tous vu un petit peu le spot qui était passé sur FR3 et d'ailleurs qui repasse encore pour le mois de mars de cette année. Les animations Zumba le lundi à 19h30, expérience Zen le mardi à 10h, festival Place au Môme le mardi à 18h, expérience Fitness le mercredi à 10h, Carnac Lanta le jeudi à 10h. Nouveauté pour 2021, le salon du livre, hein, Carnac à l'air libre. Donc, qui a eu lieu du 18 au 20 juin 2021. Donc, un événement convivial qui était la première édition, donc qui a besoin de prendre un petit peu son envol. Un événement convivial qui a regroupé 10 auteurs de renom. Un premier salon très satisfaisant avec plus de 500 visiteurs. La nouveauté 2021 luminise l'illumination de l'église Saint-Corteny du 5 juillet au lundi 16 août. Un spectacle de projection monumentale était proposé sur le parvis de l'église Saint-Corteny tous les lundis, mercredis et vendredis soir à 22h45 et 23h15. Il y avait deux séances. Donc plus de 20 000 personnes sont venues assister à ce spectacle estival. Les retours ont plutôt été très très positifs, aussi bien sur le contenu que nous voulons joyeux que sur la mise en lumière. Je pense que tout le monde a eu l'opportunité de le voir. Voilà. Skedanos, donc cette année pour 2021, Skedanos qui avait lieu avant entre le mois de juillet et le mois d'août a été volontairement déplacé sur la deuxième quinzaine du mois d'août. D'une animation, on va en faire un spectacle. Donc qui est toujours porté par la mairie avec le CMN. Et donc l'organisation a été confiée cette année à l'Office du tourisme de Carnac, entre autres tout ce qui est billetterie. 5540 spectateurs pour une jauge de 6000 personnes. Le spectacle a trouvé son public avec une organisation jugée très bonne. Le compte administratif de l'Office du tourisme, donc vous avez en récapitulatif total des dépenses pour 1 118 000 euros. Total des recettes pour 1 109 000 euros, donc un résultat d'exercice qui est négatif à la hauteur de 69 000 euros et un report des résultats de clôture des autres années qui était de 256 000 euros, ce qui nous fait un total de 187 304 euros en positif. En investissement, en section investissement, 15 000 euros en dépenses, 21 420 euros en recettes, un résultat d'exercice de 6 000 euros. Un report de 12 677 euros, ce qui nous fait un total, un report positif de 19 012 euros, ce qui nous fait un résultat global de l'Office du tourisme à la hauteur de 206 317 000 euros, sachant que l'Office du tourisme, sur l'année 2021, a bénéficié d'une taxe de séjour qui n'était pas encore revenue à celle de 2019 et la même chose pour 2020. Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2022 en budget primitif, 1 293 000 euros. Donc vous avez la billetterie de loisirs pour 257 000, les animations pour 140 000 euros, location immobilière pour 15 500 euros, les honoraires pour 60 000 euros. Annonce insertion pour 143 000 euros, publication pour 30 000 euros, les charges personnelles à 435 000 euros, les dotations provision risque pour 40 000 euros, les dépenses imprévues pour 26 000 euros. Les charges de personnel, quand vous voyez la différence, c'est qu'il y avait des provisions pour des départs en retraite en 2021. Les recettes de fonctionnement de 176 000 euros en billetterie. Donc avec la problématique de la billetterie SNCF qui a tendance à baisser, et on va bien voir les nouvelles politiques de la SNCF à ce niveau-là. La boutique pour 7 000 euros, les subventions pour 84 000 euros contre 56 000 euros. En 2021, dans les 56 000 euros, il y avait déjà eu 10 000 euros pour Carnac Salon du Livre. Et cette année, nous avons effectivement Luminis en juin pour 18 000 euros qui vient se rajouter. La taxe de séjour pour 637 000 euros contre 2021, 640 000 euros. Les produits divers pour 100 000 euros. Le résultat reporté, 187 304 euros. C'est fini. Avez-vous des questions ?
Pas de questions, donc le rapport d'activité ne comprend pas de vote. Donc je vous propose de voter donc sur les comptes financiers et le budget 2022 de l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, un marronnier ?
Pour le micro. Concernant le BP, on voit que les annonces et insertions, c'est-à-dire que c'est l'achat des mots-clés, c'est la diffusion sur Internet. Donc là, vous prévoyez 30 000 euros de plus cette année. C'est vertigineux, tous les ans, c'est incroyable. Quoi. On est à 143 000 euros.
Alors, dans les 143 000 euros, on peut revenir dessus, Philippe, ou pas ?
Le chiffre, il est là.
Non, mais je vais juste vous le dire. Je n'ai pas changé de chiffre. Annoncer un... Vous avez le détail, c'est pour ça que je voulais revenir dessus derrière. On a un petit couac aujourd'hui. Pub France 3, espace publicitaire web, achat de mots Google, publication Facebook, Instagram, YouTube. La différence que vous avez aujourd'hui entre les 113 000 et les 143 000, c'est-à-dire les 30 000 euros, je vous rappelle qu'en 2020 et 2021, on a bénéficié d'avoir des coûts moindres sur notre publication France 3, entre autres. Hein, ce n'est pas que les 30 000 euros, mais c'est ce qui a fait effectivement la différence. Voilà.
C'est-à-dire que là, on va payer plein pot. C'est ce
qu'on on paye le prix normal. Je ne sais pas si on peut dire le plein pot. On paye le prix normal qu'on n'a pas payé avant, puisqu'il y avait beaucoup d'annonceurs qui avaient annulé leur campagne de publicité et qu'on a bénéficié. Et rappelez-vous, en 2021, on est même passé sur l'Île-de-France.
Concernant les salaires aussi, alors contrairement au budget principal, où pour un budget de 4,4 millions, on augmente de 700 000 euros, mais là, finalement, vous baissez de 30 000 euros, c'est-à-dire de 357 le BP l'année dernière, on est à 325.
Tout à fait. Alors, je vous ai expliqué tout de suite, c'est que derrière, on avait des provisions pour le départ en retraite. Puisque vous avez Isabelle Amgral qui est partie en retraite et il y avait des provisions. Okay. D'autres questions ? Non ?
Ok, donc on passe au vote. Donc pour le compte financier 2021 et le budget 2022, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On continue donc avec, je le disais, le marronnier, c'est-à-dire les subventions 2022 et la convention de versement qui lie la commune à l'Office du tourisme, monsieur Lejean.
Voilà. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'Office du tourisme de Carnac une subvention spécifique de 63 000 euros au titre de l'organisation des animations 2022. Je vous rappelle qu'à la demande de la commune, l'Office du tourisme organise des animations pour lesquelles, effectivement, elle bénéficie d'une subvention. Que depuis 2021, on a rajouté, effectivement, Carnac à l'air libre, tout simplement, c'est qu'il n'existait pas d'association pour supporter directement cette animation. Donc c'est pour ça qu'on est passé par l'Office du tourisme. Et en même temps, une demande des commerçants de Carnac de vouloir avoir un peu plus d'animation sur les ailes de saison et entre autres sur l'avant-saison, sur le mois de juin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a élargi à la demande, on avait demandé une option d'élargir Luminis en période de projection aussi sur le mois de juin, avec un coût supplémentaire de l'allocation des projections pour 18 000 euros. Une subvention de fonctionnement d'un montant maximum de 21 000 euros payable sur justificatif de dépenses. En général, cette subvention-là, elle est rarement débloqué, demandé, sollicité, et une subvention d'un montant de maximum de 25 000 euros dont le versement sera conditionné au résultat de la collecte de la taxe de séjour. Je vous rappelle que la mairie provisionne l'office du tourisme à la hauteur de 510 000 euros en avance par trimestre derrière, et qu'effectivement on a le résultat de la taxe de séjour que en fin d'année, et que si on n'atteint pas effectivement le montant de 510 000 euros, il peut avoir une subvention à la hauteur de 25 000 euros. Pour exemple, en 2020, quand nous avons eu les problématiques du Covid, nous étions en dessous des 510 000 euros, mais entre-temps, on a eu une compensation de l'État Covid qui a permis effectivement d'amener la somme pour l'office de tourisme à la hauteur de 510 000 euros, puisque la taxe de séjour était en dessous. Avez-vous des questions ?
Comme chaque année, les modalités sont légèrement différentes, mais c'est le même principe. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. La subvention au CCAS, monsieur Lejean.
Donc, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de voter une subvention de fonctionnement à la hauteur de 180 000 euros et une subvention pour les animations à la hauteur de 10 000 euros pour le CCAS. Aujourd'hui, il y a 40 000 euros par rapport à l'année dernière d'augmentation sur le budget de fonctionnement qui est dû à un renfort administratif et en prévision du remplacement de madame Guillot.
Est-ce qu'il y a des madame?
Alors justement, par rapport à cette subvention de fonctionnement, c'est vrai que vous aviez évoqué les difficultés, je crois, à recruter. Et puis, on m'a rapporté aussi que, visiblement, c'était problématique, qu'il manquait de personnel. Alors ça se passe comment
C'est la problématique, elle est tout le Morbihan, même voire Bretagne. Hein, il manque un personnel, surtout soignant, important. On a du mal à recruter des aides-soignantes ou des infirmières ou des choses comme ça parce que les jeunes, ils revoient un peu la situation après le Covid. Ils ont plus envie de travailler tard le soir. Et puis aussi, il y a la responsabilité du travail qui fait peur un peu. Et puis en plus aussi, il y a les salaires. Les salaires aussi qui sont vraiment un gros problème parce que le personnel soignant n'est pas tellement bien rémunéré pour la tâche qu'il fait. Donc voilà, mais c'est un problème de Morbihan, même du Bretagne. Et, c'est national. Et il faut savoir que quand même au niveau de la Bretagne, je fais partie du groupe de travail avec l'ARS et puis tous les unions départementales des CCAS. Et puis tout le Pôle emploi, toutes les infrastructures qui tournent autour de la formation et des choses comme ça. On est en train de travailler justement sur sensibiliser les jeunes et sur le métier soignant, sur le métier accompagnement et tout. Et puis pour étudier aussi la revalorisation des salaires. Voilà, on est en train de faire ça.
Mais au niveau des salaires, la commune a la main quand même.
Non. Oui, on a la main. Enfin, tout à fait. Il y a des grilles, mais une partie de ces 40 000 euros vont servir justement à revaloriser. On a un problème national. On le voit à l'hôpital, dans les EHPAD, dans les foyers logements, parce que c'est une profession qui a du mal à attirer. Quand on y ajoute la difficulté de se loger sur la côte. Le coût de la vie, je discutais avec le maire de Quiberon. À Quiberon, ils ont aussi des énormes problèmes pour trouver du personnel dans l'EHPAD parce que, se loger sur la côte, c'est très compliqué. Et donc, quand ce sont des salaires qui sont relativement modestes, ça pose des problèmes. Donc, le problème est national, mais je crois qu'on va être obligé de faire, nous, un effort supplémentaire en termes de rémunération, de primes, de conditions de travail pour essayer d'attirer des gens et surtout de faire en sorte qu'ils restent, quoi. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Hein. L'hôpital public est dans une situation un petit peu similaire avec les infirmières. Mais il y a vraiment une crise de la vocation dans ces métiers. Ça ne passera que par une revalorisation, hein, mais on n'a pas la main complètement sur les salaires. C'est une partie des personnels, c'est lié à des grilles départementales. Il y a aussi des grilles nationales. Donc même s'il y a eu des efforts qui ont été faits là, avec des primes, la prime Ségur notamment, mais la prime Ségur portait sur un certain nombre de personnels et pas sur d'autres. Donc à chaque fois, ça crée aussi des... Et je le comprends, quoi. Quand il y a deux collègues qui travaillent ensemble, il y en a une qui a le droit à la prime Ségur, l'autre qui n'y a pas droit. Ça pose des problèmes. Donc on s'est battu aussi avec le conseil départemental pour que l'ensemble des personnels aient la prime. Enfin, c'est excessivement complexe. Et oui, c'est un énorme problème. Monsieur Dino ?
Et si la commune n'a pas la main pour valoriser les salaires, est-ce qu'elle pourrait l'avoir sur le logement ? Une vraie politique de logement
C'est ce qu'on fait avec...
Le problème, c'est les gens sont logés à 25-30 km, ouais, ils ne viendront pas bosser ici et ils viendront.
C'est ce qu'on fait avec Bélane et Bellevue, hein, plus de 200 logements. Simplement, il faut les faire sortir de terre. Comment ?
Ça pourrait être livré quand, Bélane et Bellevue ?
Je pense que Bellevue va commencer cette année, donc si tout se passe bien, et Bélane d'ici 2-3 ans, je pense, hein, parce que tout est tellement complexe que...
Ouais, mais comment Crac est allé aussi vite sur tous ces logements ? C'est dommage. Regardez l'exemple de Crac.
Alors, le problème de Crac, c'est que c'est très simple.
C'est pas un problème.
C'est pendant 6 ans... ils n'ont eu aucun permis de construire. Donc, derrière, effectivement, il y a eu une rapidité. Pendant 6 ans, il y a eu 0 permis de construire à Crac. Ouais. D'accord ? Et donc, derrière, effectivement, il y avait une demande, il y avait une attente pour avoir l'autorisation. C'est la préfecture qui avait bloqué. Hein. C'est pas la commune, hein, c'est la préfecture. Et effectivement, derrière, quand je discute avec mes collègues, effectivement, quand il y a eu possibilité d'instruire les permis de construire, il y a eu des demandes parce qu'il y en avait beaucoup de promoteurs dans les starting blocks.
Il y avait 6 ans d'instruction, en fait. Ils ont rattrapé en espace d'un an des permis qui étaient instruits depuis 6 ans. S'il y avait une baguette magique, monsieur Pialno, je veux bien la prendre.
Il y a beaucoup de logements vacants. On sait qu'il y a énormément de résidences secondaires qui ne servent pas du tout, qui ne sont plus jamais ouvertes.
Ok, et on fait comment ?
Une incitation à libérer ces logements-là.
Alors, plus du tout, je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas d'accord. De gens qui ne viennent pas depuis 10 ou 15 ans, ou des vacanciers. Ouais. Oui, mais de faire un appel au secours sur l'hébergement, parce que...
Alors je vais répondre parce que ce matin je suis en train de travailler sur le plan local de l'habitat avec ACTA. Donc c'est la problématique qui est dans tout le pays d'Auray, hein, surtout sur nos côtes. Et on a évoqué justement aussi cette possibilité-là de travailler sur les logements vacants, parce que c'est vrai qu'il faudrait faire un recensement de tous nos logements. Ce soir, il y avait une réunion sur Auray. Ils invitaient une association de Saint-Malo qui travaillait là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant. On en a débattu ce matin avec ACTA et on y était tous intéressés par cette possibilité. Mais il faudrait qu'on en discute en groupe de travail et qu'on voit un peu les moyens disponibles. Mais ACTA est prêt aussi à nous accompagner au niveau travail, ingénierie pour là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on est tous pareils. Hein. On ne sait plus quoi répondre.
J'ai reçu récemment une association de la Trinité-sur-Mer qui travaille sur ces questions et qui sensibilise les propriétaires. Ils font quelque chose qui est assez intéressant. D'ailleurs, on leur a apporté notre soutien. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas louer leur résidence secondaire à l'année parce qu'ils veulent en profiter en juillet-août. Et donc, ils ont souvent des problèmes. Et donc, entre louer ou ne pas louer... compte tenu du fait que la législation est très favorable aux locataires, et donc il y a pas mal de cas où en fait ils louent, et les gens ne respectent pas l'engagement et ne partent pas en juillet et en août. Et avec cette association, ils travaillent un petit peu sur ces questions avec des baux particuliers, et notamment ça fonctionne un petit peu comme gens de confiance, et ils ont entamé un travail de recensement, mais c'est extrêmement compliqué, quoi. Ils voient beaucoup, beaucoup de résidents secondaires, et il y a très, très peu de gens qui acceptent de rentrer dans le processus.
T'as pas fait de logement, Pierre, au-dessus de tes...
on garde ça pour des disciplines médicales et paramédicales.
Ah ben oui, mais...
On cherche le dermato ou la dermato.
On pensait que... Ouais, t'aurais pu monter dans l'étage.
Le dermato, il peut se loger tout seul, je pense, avec ce qu'il gagne. Il n'est pas comme l'aide-soignante.
Mais
c'est vrai que... Enfin, c'est un vrai problème, hein, je suis tout à fait... On en a tous conscience, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions... Et derrière des idées qui peuvent être séduisantes comme celle-là, en fait, on se heurte. On avait fait, je me souviens, il y a quelques années, un programme incitatif pour... et là aussi, on avait été extrêmement déçus, parce que là, c'était carrément des aides pour faire des travaux. La commune, on avait fait des réunions publiques, on avait proposé aux gens qui n'occupaient pas leur logement de prendre à charge des travaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens que ça intéressait, quoi.
De toute façon, la réglementation, elle est tellement à l'avantage des locataires que derrière, effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont réticents à vouloir louer l'année. Je vais vous donner un exemple qui est le mien, donc comme ça, j'ai rien à cacher. Hein. 19 mois de loyer impayé, une maison complètement dégradée, 6 mois de travaux.
Et maintenant, il a mal au dos. Ok, mais c'est une vraie question. Madame Le Golban ?
Oui, justement, en effet, il y avait eu quelque chose de mis en place et ça avait été un échec, sauf s'il y avait une réussite, que c'est au niveau de chez Zaïk quand même. C'est
une belle réussite. Oui, tout à fait. C'est une très belle réussite, mais c'est un projet personnel. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a eu cet élan incroyable de dire je vais utiliser mon bien pour faire ça.
Oui, mais enfin, elle a bénéficié de subventions très importantes.
Oui, d'accord, mais enfin, je ne peux pas dire que c'est grâce à la commune, c'est plutôt grâce à elle, quoi.
Elle a peut-être découvert le process en même temps. Enfin, bon, en tout cas, ça s'est fait en parallèle. Concernant Bellevue, donc vous dites que Bellevue risque de commencer, tant mieux, en 2022. C'est nous qui serons porteurs du projet ou alors on sera maître d'œuvre, on sera...
Alors on est porteurs du projet et on travaille effectivement avec BSH sur ce dossier-là pour le projet.
D'accord. Et on leur vendra les terrains comme on a fait aussi au Runel ou ça se passera comment ?
Alors, on est sur... effectivement, c'est eux qui vont maîtriser. Il y aura des lots libres, hein, il y aura du social, il y aura... Mais Sylvie pourrait vous en parler aussi bien que moi. On est en train de travailler sur des BRS, donc des bails BRS, réel solidaire, voilà, avec...
Sinon, la commune reste propriétaire du foncier pour éviter que ça
reparte. Et on a fait quelques réunions, on continue à travailler, donc c'est un coût pour la commune, hein, puisque effectivement la commune reste propriétaire effectivement des terrains, donc il faut les acquérir et puis les garder. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers là, puisque ça nous permet effectivement d'avoir une garantie que la maison sera à destination d'une résidence principale, d'une famille, enfin que ça restera dans une catégorie sociale bien précise, et donc qui permettra de retransmettre ce patrimoine aussi par la suite, toujours à des Carnacois ou à des résidences principales, et d'éviter de passer en résidence secondaire.
Justement, on n'est pas propriétaire, on est propriétaire de 5000 et quelques mètres carrés. Il y a encore
d'autres terrains à acheter. Oui, alors BSH, on a missionné BSH pour acheter les terrains, qui en ont acheté déjà quelques-uns. Il y a effectivement ceux de la commune, il en reste quelques-uns à acquérir.
Donc BSH sera propriétaire d'une partie et nous, on restera propriétaire.
Alors BSH est propriétaire pour la mairie. Mais de toute façon, c'est BSH qui construit. Et de toute façon, la collectivité n'a pas le possibilité de, ou à moins de faire, d'être maître d'œuvre et de tout faire, effectivement, et aussi de viabiliser les terrains derrière, on passe en général par un prestataire de service et on passe en général par des gens comme BSH.
Donc BSH achète les terrains, mais pour notre compte, en clair,
oui,
c'est ça ?
Tout à fait.
Okay.
C'est un aménageur.
Okay. Et du coup, comment se fait-il qu'on n'ait pas de ligne par rapport à ça ? Enfin, je veux dire, l'acquisition de terrain, enfin, on a vu 100 000 euros.
Parce que c'est BSH qui va l'acquérir effectivement pour la commune. Ce que vous avez vu dans le DOB l'autre jour, vous avez vu une ligne, il y a quand même une ligne qui a été mise pour les logements et qui est la participation effectivement de la commune pour que BSH atterrisse, puisque ça sera BSH qui gérera derrière, puisque la commune ne peut pas gérer directement.
Oui, ça, c'est,
et que demain,
c'est...
si on fait un OFS même avec ACTA, on passera par un prestataire.
D'accord. Et l'acquisition des terrains, c'est évalué à combien là ? Qui reste
un certain prix. On a voilà.
Négociation avec les propriétaires, donc c'est difficile de dire.
Oui, on n'a pas de.
Non. On vous donnera le résultat tant que c'est pas fini. Je peux pas.
Et Belane alors du coup, parce que là Bellevue en effet, ça a l'air d'être bien enclenché. Et Belane du coup, c'est.
Belane c'est un peu plus compliqué. Il y a des problèmes d'urbanisme encore à régler. Donc on va déjà commencer par Bellevue, hein, ce qui est un beau programme. Et on essaye dans les mois qui suivent de faire sortir Belane aussi, mais c'est un peu plus compliqué d'un point de vue urbanistique.
Runel, ça commence quand ?
Le Runel, ça devrait. Alors, j'ai mis la pression sur BSH la semaine dernière pour leur demander de commencer.
On est en train de mettre de la pression là parce que.
Il tarde.
Avec Monsieur Durand et puis justement, Olivier l'a mis la pression la semaine dernière. Normalement, ils devraient lancer les appels d'offres avant le mois de juin. Et il nous a promis de commencer les travaux pour septembre-octobre, hein, Michel ? C'est ça. Mais ce serait intéressant parce que c'est une opération de 20 logements.
Oui, mais non, ouais. C'est réglé maintenant. C'est réglé. Ok, on en était où à la subvention du CCS ? Est-ce qu'il y a des... Parce que là, on s'est un peu éloigné du sujet. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Les subventions communales, monsieur...
Subvention communale. Donc, il est proposé d'attribuer des subventions dont le détail est donné ci-après en totalisant les montants suivants. Donc, versement à des œuvres sociales 2 800 €, subvention de fonctionnement aux associations pour 14 270 €, subvention exceptionnelle pour 49 970 €. Je pense que dans le courant de l'année, on reviendra sur des subventions effectivement aux associations, puisque avec la pandémie, beaucoup d'associations ont mis un peu de retard à redémarrer derrière, et il y en a beaucoup qui ont envoyé leur dossier un petit peu en retard. Donc je pense qu'on en reverra au cours de l'année, au fur et à mesure qu'on avancera.
Alors je vous rappelle que si vous êtes membre d'un bureau, je crois d'un bureau, hein, ben, ça c'est uniquement d'un bureau ou d'un CA, d'une association, vous ne pouvez pas participer au vote. Donc je ne sais pas si... Monsieur Le Guenec, je sais que vous êtes au bureau d'une association bien célèbre carnacoise. Donc déjà, pour le bagade, il faudra retraiter le vote de Monsieur Le Guenec. Sinon, il n'y a personne d'autre qui est dans ce cas. Madame Le Golvan ?
Non, je ne suis pas dans ce cas-là. Mais concernant les subventions, sécession orchestra, donc en effet, c'est dans les subventions exceptionnelles à venir ou à pas venir, d'ailleurs. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un bordereau, même s'ils n'ont pas présenté ? C'est vrai que là, on les met quand même, donc ça veut dire qu'on va voter alors qu'ils n'ont pas ni rempli leur dossier, ni donné la convention, ni le bilan. Normalement, ça doit être voté à part.
Alors, oui, effectivement, de toute façon, elle interviendra à part. Le but, c'est que, pour l'instant, on n'a pas eu de demande, effectivement. Je vous rappelle qu'on est sur une logique d'un prévisionnel, c'est d'anticiper, ce que j'avais expliqué, et qu'on a eu d'ailleurs un débat, Madame Le Golvan, là-dessus. On était d'accord. Pour une fois, on était d'accord. D'anticiper des fois des demandes qu'il n'y avait pas eu parce qu'on savait qu'il y avait des associations. Je ne parle pas de Festival Terraquet en général. Je parle de non, je ne parle pas de celui-là. Je parle en général de se dire qu'effectivement, on savait qu'il y avait des associations qui n'avaient pas fait la demande, qu'on risquait de l'avoir. Et c'était plutôt d'anticiper pour pouvoir effectivement répondre le plus rapidement possible à ces associations-là, même si on doit les repasser en conseil municipal. Et c'était le cas pour, puisqu'on en avait battu, pour le Festival Terraquet.
Pour ces sessions orchestra, ça doit être mis à part quand même, malgré tout, puisqu'on vote.
Elle sera conditionnée évidemment à la fourniture de ces documents, Mme Le Golvan, vous le savez très bien. Tiens, ça, c'est assigné. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Deux abstentions ? Avec Yann. Pour le reste, donc le rapport est adopté. Subvention du yacht club, Monsieur Lejean, c'est la dernière, j'espère.
Le yacht club, je pense pas que ce soit la dernière. J'espère pas pour le yacht club que ce soit la dernière subvention qu'ils vont recevoir. Tu diras, Christophe, tu diras à Armel que c'est fini.
Je transmettrai.
C'était la dernière.
Attendez la dernière intervention, Monsieur Lejean.
Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer pour 2022 une subvention de 45 000 euros à l'association du Yacht Club de Carnac, répartie comme c'est précisé derrière, donc pour différentes manifestations. D'accord, mais tu me perturbes, ça va aller moins vite. Donc sur les manifestations nautiques qui ont repris, donc ils ont relancé ça pour 2022, sur l'activité des jeunes sportifs et l'école de sport. Avez-vous des questions ?
Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Avant le dernier rapport de M. Lejean, M. Christophe Richard, sur l'étude de programmation des infrastructures sportives, le choix de l'offre.
Donc on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Mme Le Golvan le sujet. Je parle plus fort ?
Parle plus fort.
Ouais. Ah bon ? Ok. Donc nous avons commencé à aborder le sujet avec Mme Le Golvan tout à l'heure suite à sa question. Il s'agit ici de valider la candidature de la société ad hoc qui a été retenue pour l'étude de programmation du complexe sportif pour un montant de 42 000 € TTC.
Est-ce qu'il y a des questions, Mme Le Golvan ?
Alors j'avais fait la remarque en commission enfance-jeunesse. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on présente à la commission au niveau de la rédaction de l'appel d'offres, savoir ce qu'on y mettait. Ça aurait été quand même intéressant qu'on le sache. Et je rabâche, mais je le dirai encore, c'est que c'est dommage que cette étude soit tronquée. Enfin, pour moi, elle est complètement tronquée, puisque le périmètre que vous avez donné, donc vous amputez en fait cette étude des 9000 mètres carrés que vous pensez vendre donc au magasin Lidl. Donc pour ces raisons-là, moi, je voterai contre. Parce que je trouve que l'étude n'est pas faite comme elle aurait dû être faite.
Parfait. Ouais,
mais je l'ai déjà dit en commission.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a donc des votes contre, Madame Le Golvan ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Le reste est donc adopté. Merci. Et cette fois-ci, la vraie dernière...
Ouais, ça va être très court. Hein. C'est juste une régulation pour les frais de notaire de l'acquisition de 2019 qui correspondait au terrain des anciens tennis de Kerabus pour 2 485,60 €.
Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, abstention, unanimité ? Je vous remercie. Alors, on entame le marathon de M. Oudois maintenant. Est-ce qu'on peut voter en une fois ou on le fait ligne par ligne ?
Ligne par ligne.
Bon, alors, Mme Le Golvan représente l'opposition. Et donc, si elle est d'accord, je vous propose de passer... Donc, tu fais l'ensemble des... Enfin, sauf à ce qu'il y ait des gens qui veulent s'abstenir ou... donc tu présentes tout et puis on fera un seul vote à la fin.
Je marquerai un petit temps d'arrêt du coup entre chaque bordereau et comme ça si vous avez besoin de précision ou d'intervenir. Donc du coup le premier bordereau donc c'est les crédits scolaires, donc là c'est pour l'achat des fournitures scolaires donc à hauteur de 56 € par élève pour les classes maternelles et 75 € pour les classes élémentaires. Pas d'observation particulière. Voilà. Tu
pause.
Fais le timekeeper.
Ouais, timing, ouais.
Ok.
Pas de questions. On passe à la suite.
Donc du coup, on passe aux activités pédagogiques. Donc là, pas d'évolution non plus. On est toujours à 1 500 € par classe, enfin pour les classes maternelles et 2 000 € pour les classes élémentaires. C'est pour les sorties, interventions, animations diverses. Ensuite, donc, on passe à... On passe donc, du coup, à l'arbre de Noël. Donc, l'arbre de Noël, c'est l'acquisition des livres pour un montant de 10 €, plus la prise en charge du goûter, la séance de cinéma, le transport qui va avec. Donc, ça représente un budget global de 1 450 €.
Le temps de réflexion est écoulé. Hop là.
Ensuite, donc on passe au transport pour se rendre aux activités aquatiques. Donc, activités aquatiques qui sont donc mises en place par Aurec-Quiberon Terre Atlantique. Et nous, on prend en charge le transport. Et donc là, ça représente 2 500 € pour les deux écoles.
Pas de questions, on passe au sujet suivant.
Donc là, c'est la voile, donc la prise en charge des séances de voile. Là, une petite évolution par rapport à l'année précédente. On était à 18 € par demi-journée. On vous propose donc de passer à 19 € par demi-journée. Donc pour les écoles et pour les collèges, ce qui représente donc un budget global de 37 000 €.
Damn. Le suivant.
Ensuite, donc, les remises de prix dans les écoles. Donc là, c'est les dictionnaires pour les plus petits et puis donc les clés USB pour les plus grands pour leur passage au collège, donc pour un montant global de 800 €. Les aides aux familles carnacoises, donc pour les séjours scolaires et extrascolaires, organisés donc par une association carnacoise, donc en fonction du quotient familial toujours. Et là, donc on a une augmentation de l'ordre de 5%, puisque voilà, ces tarifs n'avaient pas évolué depuis plusieurs années.
Aucune question. On passe au sujet suivant.
Les frais de fonctionnement de l'école privée, donc là vous connaissez le principe, on prend le coût de l'école publique qu'on divise par le nombre d'élèves et ça nous donne un coût par élève qu'on remultiplie ensuite par le nombre d'élèves scolarisés à l'école Saint-Michel. Et donc on arrive à un montant qui est donc de 136 000 euros environ, voilà. Puisqu'on a décidé de faire vite, hein, voilà.
Allons-y.
Là, c'est participation aux frais de fonctionnement des écoles extérieures. Donc, le mode de calcul est un petit peu différent. C'est essentiellement, en fait, pour les élèves qui ne peuvent pas suivre une scolarité, je dirais, classique et qui doivent aller dans des établissements extérieurs à la commune. Donc là, le mode de calcul est un petit peu différent. Et donc, on est à 482 euros pour les classes maternelles et 434 pour les classes élémentaires.
Tout le monde dort, donc on passe au sujet suivant.
La participation au repas des élèves carnacois donc dans les écoles primaires, là aussi, donc une légère évolution. On était à 90 centimes par repas pour les carnacois. Et donc, on est passé à 91 centimes par repas consommé. On enchaîne avec donc les... Moi, j'attends hein, ton taux de départ. Hein. Sinon, je démarre pas. Hein. Donc, du coup, subvention exceptionnelle. Donc là, c'est pour les séjours scolaires et notamment donc le séjour à la Clusaz à hauteur de 80 euros par élève. Donc, soit un montant global de 6 200 euros. Et... dernier volet, donc les activités pédagogiques scolaires, donc cette fois-ci à destination des collèges. Donc c'est à vocation citoyenne. Pour Saint-Michel, ça fera l'objet en fait d'un devoir de mémoire, puisqu'ils ont l'intention d'aller au mémorial de Caen. Et au collège des Corrigans, on est plus sur des animations liées au secourisme, lutte contre le harcèlement et puis autour de la contraception. Voilà les différentes propositions. Avant de confier la parole à Christophe, je voulais juste donc vous donner des données chiffrées un petit peu plus globales. Ce qu'on vient de voter là très rapidement, ça représente quand même la somme de 232 000 euros à destination des familles et des enfants carnacois liés au scolaire. Et si on y rajoute l'ensemble des frais inhérents à l'école, au transport scolaire, à la restauration scolaire, etc., c'est plus de 600 000 euros qui sont consacrés aux familles carnacoises dans le cadre du scolaire. Donc, un grand merci pour eux.
Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, hein, c'est vraiment des rapports, je dirais, qu'on vote chaque année en soutien à nos écoles. Je vous propose de passer donc au vote sur l'ensemble de ces rapports. Et s'il n'y a pas ni d'abstention ni d'opposition, ils sont tous adoptés donc à l'unanimité. Et je vous en remercie. Monsieur Richard, une subvention exceptionnelle pour un jeune sportif carnacois.
Oui, nous avons la chance sur la commune d'avoir un sportif de haut niveau, de surcroît handicapé, et qui a la potentialité de participer, en tout cas nous l'espérons, au JO Paris 2024. Et donc pour l'aider, puisque dans le concours de dressage, il faut énormément d'argent, donc pour l'aider à s'entraîner dans les meilleures conditions, nous avons... décidé de l'aider financièrement à hauteur de 2000 euros chaque année jusqu'à 2024 pour pouvoir en tout cas essayer de réunir toutes les conditions nécessaires à ce qu'il participe au JO et à porter aussi les couleurs de Carnac et puis les couleurs du handicap. Voilà.
Merci. Oui, très belle initiative. Je connais un peu le... Il n'y a pas de questions. J'imagine que tout le monde sera d'accord. Un beau rêve à réaliser, participer aux Jeux Olympiques pour un jeune Carnacois. Je vous en remercie. Madame Catherine Isoin, la création d'une ludothèque à l'espace culturel Terraquet et la modification du règlement intérieur.
Voilà,
Monsieur Lejean, pas de remarques désagréables, s'il vous plaît.
C'est d'approuver le projet de création de la ludothèque dans la médiathèque. Et effectivement, donc, modification du règlement intérieur, puisque la ludothèque vient se greffer dessus. Donc il y a effectivement une nouvelle proposition d'horaire d'ouverture, donc avec une extension de l'amplitude horaire. Et donc il y a aussi la rubrique au niveau des amendes pour les retards de restitution des documents, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, on a estimé que ça pouvait dissuader les gens de traîner, puisque à ce moment-là, effectivement, ça empêche les autres adhérents à la médiathèque d'en profiter. Voilà, donc j'ai approuvé la création d'une ludothèque et le règlement intérieur, donc modifiant. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Personne n'est en retard dans ces livres à la médiathèque. Sinon, ça va douiller.
Vous êtes tous adhérents à la médiathèque, bien sûr.
Oui, Nadine ne sait pas lire, donc c'est pour ça qu'elle n'emprunte jamais le livre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. On passe, Madame Gasser, à deux rapports qui concernent le personnel communal.
Alors, pour faire suite effectivement à Catherine, pour effectivement faire fonctionner la ludothèque, vous avez vu la modification du tableau des emplois, puisqu'il faudra employer une personne à mi-temps. Donc je vous demande effectivement d'approuver cette modification.
Est-ce qu'il y a des votes contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Le fabuleux feuilleton du RIFSEP.
Absolument. Donc modification.
Saison 2, épisode 754.
Voilà, modification, c'est simplement effectivement un complément des délibérations précédentes. Où on inclut effectivement les congés de longue maladie, congés de longue durée et congés pour grave maladie, où effectivement il n'y a pas de maintien du RIFSET. C'est la modification qui est demandée. Voilà.
Quelqu'un se risque à une question sur ce sujet? Non. Je dis quelqu'un se risque à une question sur ce sujet? Je pense que c'est une disposition nationale, non? Enfin,
c'est ça.
Oui, voilà. C'est le Conseil d'État.
Oui,
ouais.
Ouais,
ouais. Ouais, c'est pas nous qu'on décide. Je pense que c'est l'application de. Parfait. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Monsieur Durand, le dernier rapport avant le week-end.
C'est la mise à disposition de logiciels d'urbanisme. En fait, c'est la dématérialisation de tous les actes d'urbanisme. Que ce soit les DP, les PC, les PA, les permis d'aménager également, donc les permis de démolir. Jusqu'ici, tout ça... Pardon ?
Que c'est ça ? On va pouvoir surfer sur Internet. Vas-y, Michel, te laisse pas perturber.
D'accord. Et en fait, jusqu'ici, tous les dossiers arrivaient en version papier. Correct. Et donc là, on les passe tous en dématérialisation grâce via le... On peut arrêter le truc ? Via un logiciel qui est mis à disposition par ACTA. Voilà. Pour une somme de 2795 pour 2022 et 2200 pour les années suivantes. Et ça concerne bien tous les dossiers d'urbanisme, hormis les AT qui ne font pas partie de l'opération.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces logiciels? Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention, unanimité. Il n'y a pas de questions écrites, pas de questions orales. Je vous souhaite tous un bon week-end et je vous remercie pour votre présence.
Une question. Il n'y avait pas un verre de l'amitié dans le temps après le conseil municipal?
Si, il y a longtemps, mais moi je suis pour le rétablir.
De quoi? On pourra mettre ça à l'ordre du jour.